de définir les politiques et fixer les orientations en tout genre, et notamment sur l'aménagement du territoire. Je ne vais pas m'en sortir avec ma feuille. Non, je te remercie. Voilà, donc, pour ce qui me concerne, je vais m'inscrire dans ce schéma-là en tant qu'agent d'une collectivité et qui va être amené, d'une manière ou d'une autre, à faire réaliser des aménagements lumière sur le territoire. Donc, quel est mon rôle ? Mon rôle, avant tout, c'est bien sûr de mettre en application les politiques choisies par nos élus et faire en sorte que les réalisations s'opèrent dans l'esprit et les délais et le respect des budgets fixés par nos décideurs. Donc, quand j'ai une opération à mener, je vais avoir deux options. Soit on va la travailler plutôt en interne, c'est-à-dire avec des services de la collectivité, soit on va s'appuyer sur des acteurs privés qui ont des savoir-faire soit dans le domaine de la maîtrise d'œuvre, soit dans le domaine de la réalisation, et très souvent dans ces deux domaines. Donc, dans un premier temps, il me faut étudier un petit peu le contexte, analyser tous les contextes, vérifier si l'opération qu'on a choisi de mettre en œuvre est réalisable d'un point de vue notamment juridique, mais également technique et financier. Donc je m'assure de ses faisabilités, de l'opportunité de réaliser cette opération, et je vais vérifier également que c'est en cohérence avec l'ensemble des documents cadres, que ce soit la réglementation ou des documents guides tels que des chartes ou des schémas directeurs, notamment schéma directeur d'aménagement lumière, par exemple, pour notre sujet. Et ensuite, je vais définir un programme, parce qu'à un moment donné, il va falloir communiquer le souhait d'action de la collectivité vers la maîtrise d'œuvre, vers tous les acteurs qui, d'une manière ou d'une autre, vont opérer sur cette réalisation. Donc, écrire un programme, c'est définir des objectifs et des besoins. En définitive, donc, il va falloir mener une analyse des contraintes et exigences d'ordre social, urbanistique, architectural, paysagère, fonctionnel aussi, puis sur les aspects environnementaux, et enfin, technique et économique. Ceci, ça permet donc de définir, d'une part, le cahier des charges de réalisation, mais également de prendre en compte le futur de l'installation et donc toute la partie maintenance et pérennité de cette installation. Et puis derrière ça, on va essayer d'établir une enveloppe prévisionnelle du coût des travaux. On va s'assurer de disposer d'un financement, parce que ce n'est pas le tout d'avoir des idées, il faut pouvoir aussi les rémunérer. Et puis ensuite, on va engager un processus de consultation, d'abord de maître d'œuvre, et puis derrière, il y a des cahiers des charges pour la réalisation des travaux qui sont opérés, généralement par les maîtres d'œuvre, mais le maître d'ouvrage est toujours présent dans tout le processus, avec des actes de validation un petit peu à toutes les étapes. Et finalement, on réceptionne, ou on reçoit en tout cas, les ouvrages pour leur gestion future. Et donc, il va nous falloir organiser également toutes les opérations de maintenance qui permettront de maintenir ces installations. Et je pense qu'on sera amené à en parler. Il y a beaucoup de sensibilité dans certaines installations, notamment celles à caractère artistique ou celles qui sont les plus technologiques. Donc on ouvrira la parenthèse de la Smart City, je pense, à un moment donné. Je reviendrai sur cette notion-là. Je vais laisser peut-être la parole au suivant.
Donc, quand le maître d'ouvrage a passé la commande auprès d'un maître d'œuvre, ce maître d'œuvre va intervenir, et Anne peut nous expliquer un petit peu comment se fait cette intervention, à partir de quel moment.
Oui, il faut peut-être juste préciser brièvement ce qu'est un concepteur lumière, puisque c'est un métier qui, si on le compare avec le métier d'architecte, ça fait plusieurs millénaires qu'il y a des architectes. Ça fait quelques décennies à peine qu'il y a des concepteurs lumière. Et donc le concepteur lumière, c'est quelqu'un qui travaille dans l'espace avec un seul matériau, la lumière et ses interactions avec les autres matériaux. Donc, les architectes, pendant des millénaires, ont été des concepteurs lumière pour ce qui est de la lumière naturelle. Ils le sont encore. Parfois, ils l'ont oublié. Mais se sont développés depuis l'avènement à la fois des nouvelles sources d'énergie qui permettent de créer une lumière que l'on dit artificielle, tout un tas d'usages au sein de la ville, au sein des espaces construits. Donc, entre guillemets, à partir du moment où il y a eu la révolution industrielle, on a commencé à faire des bâtiments dans lesquels il n'y avait plus de lumière naturelle. On a commencé à vouloir profiter de l'espace commun la nuit. Et du coup, entre guillemets, une maîtrise sensible et technique à la fois de l'outil lumière a été nécessaire. Et donc, les concepteurs lumière ont en charge de travailler l'aspect des effets de la lumière artificielle dans l'espace urbain. Là, je vais parler que de l'espace urbain parce que généralement, quand on parle de l'éclairage dans l'espace urbain, c'est de nuit. Il y a assez peu de projets d'éclairage de jour. Donc, entre guillemets, on n'est pas seulement... Un point très important, c'est qu'il n'est pas seulement sujet de la lumière, de l'éclairage qu'on va mettre, mais on travaille dans un espace-temps qui est quand même très particulier, c'est celui de la nuit. C'est-à-dire qu'il y a des gens hein, qui ont donné cette notion de géographie nocturne, c'est-à-dire que c'est le même espace, mais c'est un autre temps, c'est un autre usage. On est aussi, en tant qu'être humain, habitué à des comportements différents. On ne ressent pas les choses de la même façon. Donc, entre guillemets, au-delà de l'aspect lumière, le concepteur lumière, on va dire, c'est la face nocturne de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Quand on travaille sur des espaces publics, on est souvent au sein d'une équipe avec paysagistes, architectes, urbanistes. Parfois, quand on intervient sur des mises en lumière de monuments ou sur des installations artistiques, on est leader d'une équipe, mais on est souvent membre d'une équipe. Et le concepteur lumière, c'est souvent le seul qui a vu le lieu la nuit. C'est-à-dire que cette dimension d'appréhender l'espace vécu, c'est vraiment très important parce que c'est vrai que la lumière a un impact fondamental sur la perception qu'on aura tous de l'espace public dans lequel on est. Donc, et évidemment, comme on travaille pour des maîtres d'ouvrage qui ont des attentes tout à fait légitimes, mais très techniques, ce n'est pas seulement proposer des ambiances et proposer des usages de la nuit par la mise en lumière d'un lieu, mais c'est aussi maîtriser techniquement leur mise en œuvre et anticiper, comme le disait Ghislain, sur leur pérennité, donc leur facilité de maintenance. Donc parfois, entre guillemets, le paramètre, ça ne va pas pouvoir tenir dans un espace urbain au-delà de 6 mois, fait que on va chercher une autre solution, peut-être un peu moins attrayante au départ, mais dont on est sûr qu'elle profitera à tout le monde au-delà du moment où on aura fait des jolies photos, quoi.
Donc, pour assurer la réalisation de ces projets, un concepteur lumière, un maître d'œuvre va avoir besoin d'un certain nombre d'équipements, d'un certain nombre de matériel spécifique. Et en particulier, actuellement, votre société développe un équipement qui fonctionne dans des conditions très, très particulières. Mais peut-être que vous pouvez nous expliquer plus globalement quel est le rôle des entreprises qui interviennent au niveau technologique.
Tout à fait. Donc, Suna Design, nous sommes une start-up basée sur Blanquefort. Nous étions une start-up il y a peu de temps. Nous sommes maintenant 50 personnes, donc considérées presque comme une PME maintenant. Et nous développons des produits qui sont des lampadaires solaires complètement autonomes. C'est-à-dire que... dans des endroits soit ruraux où il n'y a absolument pas d'électricité, soit dans des milieux urbains, mais dans lesquels il est compliqué de faire une tranchée supplémentaire pour rajouter un lampadaire, eh bien on est capable de proposer des lampadaires solaires. Ce sont des produits autonomes que l'on met en haut d'un mât. On appuie sur le bouton on-off, ça s'allume et ça fonctionne tout seul. C'est-à-dire que On a sur ces produits à la fois un panneau solaire qui est capable donc de récupérer l'énergie solaire et de la stocker dans une batterie, ça c'est deux jours, et la nuit, la batterie, via un module LED, prend le relais pour éclairer l'espace public. Donc on a vraiment un produit complètement autonome qui charge une batterie la journée et qui fait de la lumière la nuit, sans avoir besoin du moindre raccordement à l'électricité. Donc ça, c'est effectivement un produit, ou une gamme de produits en tout cas, qui répond à pas mal de besoins. Notre premier business, il est adressé aux pays émergents, donc principalement l'Afrique, l'Amérique du Sud et un petit peu l'Inde. Mais on est en train d'élaborer et de designer une nouvelle gamme de produits qui verra le jour en fin d'année, qui permet non seulement d'apporter la lumière à des gens, donc dans des endroits assez inaccessibles, mais aussi de rajouter des fonctions supplémentaires à ce lampadaire et donc d'adresser de nouveaux usages, et notamment des usages liés à la Smart City. Donc le lampadaire ne fait plus que de la lumière, maintenant il va faire de la lumière plus d'autres fonctions. Donc ce lampadaire, pour faire ses nouvelles fonctions, est équipé et connecté. Est connecté d'abord en local avec votre smartphone, pour être capable, pour l'installateur ou pour l'utilisateur final, de l'installer plus facilement, de le paramétrer, et éventuellement de le localiser pour faire de la gestion de parc. Donc ça, c'est plutôt l'installateur qui va utiliser cette première fonction de connectivité sur le lampadaire. L'usager, lui, va bénéficier d'une fonction de type profil d'éclairage intelligent qui permet, grâce à la synchronisation des lampadaires entre eux, sans fil, de bénéficier d'un éclairage adapté au passage dans la rue, adapté à la fréquence de passage des véhicules, donc pour apporter un certain niveau de confort au niveau visuel qui correspond finalement, on parlait du domaine de la nuit, effectivement, pour des raisons économiques et environnementales, on développe des solutions qui maintenant sont capables d'éclairer assez peu lorsqu'il n'y a personne sous le lampadaire, mais qui, sur détection de passage, de piétons, de véhicules, sont capables d'éclairer plus lorsqu'il y en a vraiment besoin. Soit le lampadaire seul, soit la rue entière, lorsqu'on a synchronisé ces lampadaires entre eux. Donc voilà, nouvel usage, nouvelle fonction. Ça, c'est pour la partie plutôt lighting, d'accord, éclairage. Et puis, nous considérons le lampadaire comme à la fois un produit qui est capable donc d'éclairer, mais aussi d'apporter de l'énergie solaire pour faire autre chose. Autre chose, ça peut être par exemple vous permettre au pied du lampadaire d'avoir accès à Internet via un hotspot Wi-Fi. Et ceci, non seulement la nuit, mais aussi le jour, donc en mode 24 heures sur 24. Donc ça, c'est une fonction très demandée, de plus en plus demandée, surtout en milieu urbain, et qu'on va être capable d'adresser dès la fin d'année sur notre nouvelle gamme de produits. On peut imaginer également pour les collectivités une fonction de comptage de véhicules, donc des données qui vont être capables d'être remontées par Internet, puisque le lampadaire va être connecté également à Internet pour y remonter des informations, remonter un certain nombre de data qui vont être capables d'être traitées par la collectivité pour ensuite être utilisées par l'utilisateur. Par exemple, on peut imaginer que le lampadaire de 2018 chez Suna va être capable de, du haut de ses 5-6 mètres, de voir la rue entière et de mesurer, de compter le nombre de places disponibles pour se garer dans la rue. Et être capable de remonter ça en temps réel à la collectivité. Et le résultat, c'est d'indiquer au pied du poteau, bien évidemment, le nombre de places dont vous disposez dans la rue pour vous garer à coup sûr. Donc, voici pour les produits et pour les nouvelles fonctions qu'on est en train d'implémenter sur ces lampadaires de demain. Et demain, c'est aujourd'hui.
Bien, merci. Ce qui veut dire aussi que le développement de ces nouveaux équipements a pu se faire parce qu'il y a eu apparition de nouvelles sources. Je voudrais justement que M. Canal explique un petit peu quelles sont ces nouvelles sources dont vous entendez parler ou que vous voyez sur les rayons de vos magasins et de savoir qu'effectivement, l'énergie consommée par ces nouvelles sources n'a rien à voir avec celle qui était nécessaire pour les sources précédentes.
Tout à fait. Je vais compléter toute la présentation que vous avez faite tout à l'heure pour ouvrir un petit peu et éventuellement susciter des questions dans le public et retomber sur votre question. Donc, je suis chercheur, je suis ingénieur de recherche au CNRS. J'ai encadré très récemment deux thèses, une sur la dégradation des LED, donc on y vient, et sur les OLED, les LED organiques. Très récemment, alors la lumière impacte tous et tout le monde et dans des domaines aussi variés que l'éclairage, la photosynthèse, pour la production de spiruline, on entend souvent parler de spiruline, sur l'éclairage des animaux d'élevage aussi. Donc voilà, j'ai touché un petit peu à tout ces derniers mois, l'éclairage des animaux d'élevage, la photosynthèse sur la spiruline, les dégradations des LED, les dégradations des OLED, chez Safran pour l'éclairage, vous le verrez dans quelques années, de ce qu'on appelle la nacelle, donc ce qui porte le moteur pour faire de l'affichage simplement. Donc ces derniers mois, j'ai couvert un large panel d'informations et ce qu'il faut savoir au niveau des éclairages à LED, on travaille sur chaque étage de la LED depuis le secteur. Donc l'influence, ce qu'on appelle le ballast, c'est-à-dire la partie électronique entre la source de lumière et le secteur, l'influence du ballast sur le secteur, du secteur sur le ballast, l'influence du ballast sur la lumière, la qualité de la lumière, ensuite le type de lumière sur l'œil, l'influence sur l'œil et finalement sur le cerveau. Voilà. Et donc les nouveaux éclairages à LED, on peut trouver dans le commerce des choses de bonne qualité et de très mauvaise qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on trouve très rarement des choses, des luminaires ou des lampes à LED de très bonne qualité, pas chères. C'est simplement impossible parce que quand on voit technologiquement ce qu'il faut amener pour avoir de la bonne qualité, c'est pas viable. On peut pas trouver quelque chose de pas cher et de bon. Par contre, on peut trouver quelque chose de cher et mauvais. Voilà. Ça, c'est possible. Ouais, ça arrive. Voilà. Donc au sujet des LED, il y a quelques petits, donc on pourra revenir dessus, il y a des tests sympathiques à faire que chacun peut faire chez soi parce que la LED dans la ville, je vais revenir sur la LED. Le gros avantage de la LED, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'éclairage où on a quelque chose d'aussi adaptatif, d'aussi directionnel. On peut éclairer précisément où on veut, comme on veut, avec la température de couleur que l'on veut, du blanc chaud, du blanc froid, l'éteindre et l'allumer aussi facilement, ce qui n'était pas possible avant. On peut donc le grader, baisser à 10%, remonter, sans perte de durée de vie au niveau de l'éclairage. Donc tout ça, on le retrouve avec la LED. Et l'avenir en termes d'éclairage, l'avenir qui est repoussé à une date inconnue, puisque les investissements ont été tels sur la LED, et je veux parler évidemment de la OLED, la LED organique. La OLED, c'est l'avenir de l'éclairage, et en général, il y a en gros, dans l'histoire de l'éclairage, 4 sources de lumière qui cohabitent. Et quand il y en a une nouvelle qui apparaît, il y en a une qui disparaît, mais il y en a toujours 4. Donc l'incandescence va disparaître. Ce que l'on va trouver qui va remplacer, donc c'est la LED, notamment, et la OLED. Et le seul ennemi, le seul point faible de la OLED, bien c'est la LED. Parce qu'il y a eu des investissements qui se chiffrent en milliards sur la LED, et tant que les industriels ne seront pas revenus auront pas récupéré cet investissement, il n'y aura pas d'investissement plus que ça sur la OLED. Aujourd'hui, on trouve des OLED, et on trouve des luminaires à OLED, à des prix exorbitants. C'est faramineux. La durée de vie d'une OLED, c'est de l'ordre de 30 000 heures. Donc on est quand même bien, sachant que la LED, elle, est déjà à plus de 50 000 heures assez facilement. Voilà. Mais la OLED, elle permet d'avoir une qualité de lumière qu'on n'obtient pas non plus avec la LED actuellement. Sur la LED, c'est assez compliqué de dire on a un bon éclairage à LED de façon intuitive. Parce que la LED, est, comme je le disais précédemment, c'est une chaîne. Il y a la qualité du secteur, mais en France, on a la chance d'avoir quelque chose de très stable. Ensuite, il y a le ballast, la qualité du ballast, qui est fondamentale. La LED elle-même et son implantation, sa dissipation thermique, comment est-ce qu'elle a été fixée. Et là, on va jouer sur la durée de vie du produit. L'influence du ballast sur la LED, ça va être la qualité de la lumière, ce qu'on appelle le papillotement, le flickering en anglais. Et ce papillotement n'est pas si anodin, parce qu'il va jouer sur déjà l'agréabilité, le bien-être, mais aussi sur, ça peut toucher le cerveau de façon inconsciente, et il peut y avoir des nausées, des maux de tête, un sentiment de mal-être. Donc la qualité de la lumière, pour avoir un bon luminaire, eh bien, on va jouer sur chacune de ces étapes. Ensuite, l'implantation de la LED, je disais, au niveau thermique, c'est-à-dire une bonne soudure, là, ça va jouer sur la durée de vie, et au final, sur aussi la partie optique. Donc là, comme c'est une lumière qui est très ponctuelle, donc éblouissante, il faut jouer sur des optiques pour répartir cette lumière et avoir quelque chose d'agréable. Voilà, donc chaque point est important, et un bon luminaire, c'est pas si évident à voir. Alors la petite chose, la petite astuce que l'on peut opérer assez facilement pour voir si on a acheté une bonne lumière, une bonne source de lumière, une bonne ampoule ou pas, c'est de prendre son smartphone et puis de regarder à travers la caméra du smartphone si on voit des raies verticales, noires et blanches, voilà, des sortes de raies qui peuvent balayer même éventuellement. Mais quand on aperçoit ce genre de rayures, on a un très mauvais éclairage. C'est ce qu'on appelle le papillotement. Le contraste entre les raies blanches et les raies noires va donner l'intensité, l'amplitude de ce papillotement, et l'écart correspond au 50 Hz, voilà, ou un multiple du 50 Hz. Et quand on a ce genre de raies, alors on le voit très très bien avec des lampes fluorescentes à ballast ferromagnétique, donc l'ancienne technologie. Avec les ballasts électroniques, on ne voit plus rien puisqu'elles sont cadencées au-delà du kilohertz. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'œil, ça c'est le cinéma, voit les images, 25 images secondes, on peut percevoir quelque chose qui est en dessous des 25 images secondes avec l'œil. Mais le cerveau va jusqu'à 500 Hz. Voilà, donc on peut percevoir, on peut avoir des nausées, on peut être mal parce qu'il y a un mauvais éclairage, et tout simplement sans le percevoir au niveau de l'œil, mais le cerveau le voit jusqu'à 500 Hz. Donc si vous avez des questions aussi, parce que ça touche ce qu'on disait, le cycle circadien, certains d'entre vous ont vu des choses sur la lumière bleue, ce qu'on appelle la lumière bleue et la conséquence de la lumière bleue sur l'œil. Donc il y a peut-être aussi des questions là-dessus, et sur le cycle circadien, où mettre quel type d'éclairage, des blancs chauds, des blancs froids, à la fois dans la ville, mais aussi chez soi.
Merci. Alors, il faut dire que toutes ces technologies ont été développées. La conscience des maîtres d'ouvrage s'est aussi intéressée aux économies d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, si on en est venu à développer ce type de source, si on est venu à développer ce type d'équipement et de luminaire qui utilise le solaire comme énergie primaire, c'est parce qu'il y a des soucis au niveau aussi bien des collectivités qu'ensuite des gestionnaires, par rapport aux économies d'énergie à faire et de savoir comment est-ce qu'on peut gérer ces économies d'énergie.
Alors, juste avant de... Par rapport aux économies d'énergie, oui, la LED, effectivement, est extrêmement peu énergivore, et la OLED également. Pour donner une image, on pourrait faire un quiz. Selon vous, le rendement d'une LED, le rendement d'une LED maximale théorique, On va pas le faire parce que ça prendrait du temps. Je le fais souvent par jeu, comme ça, avec le public. C'est pas 80% de rendement, c'est pas 90% non plus. C'est encore plus, c'est pas non plus 100%. Et là, je vois qu'il se pose des questions. C'est bizarre, quelque chose théorique, hein, je dis. Qui a un rendement de plus de 100%, c'est pas possible. Mais ainsi, si avec la LED, on peut avoir un rendement, bon, c'est une étude, c'est théorique, de plus de 100%. Je crois que c'est 105 ou 110%, parce qu'à un certain niveau, on peut avoir du pompage thermique dans l'atmosphère. Et là, cette partie d'énergie thermique n'est pas apportée. Donc, c'est le petit plus qu'il y a. Donc, on parlait d'économie d'énergie. Donc, la LED, qui est aujourd'hui autour de 20-25% de rendement, a un avenir grand devant elle, elle a de l'espace, elle a encore de la place. Si on prend l'exemple de l'incandescence, on est saturé autour de 17-19% parce que la grande partie du rayonnement est dans l'infrarouge. Donc tout ça, c'est perdu, c'est pas utile à l'œil. On a 3% d'efficacité sur l'incandescence classique, 5% sur les halogènes, les halogénures, avec les halogénures. Donc on est autour d'un rendement de 5% aujourd'hui avec ce qui est de l'incandescence. Voilà. On va bien au-delà avec la fluorescence, mais il y a des problèmes après de gradation d'environnement, parce que la température joue beaucoup sur l'efficacité lumineuse, mais la LED, elle est peu sensible, au contraire, plus il fait froid, mieux elle se porte, aux variations de température. et elle a des efficacités. Et donc, on parlait d'efficacité et de rendement énergétique qui sont bien au-delà de ce que l'on peut espérer avec d'autres sources de lumière.
Ok. Donc, je vais essayer de répondre sur le sujet des économies d'énergie, mais avant, je vais essayer de vulgariser un petit peu, et si vous voulez descendre dans la technique, on pourra, et vous avez vu qu'on a un spécialiste qui peut nous parler très technique. Bon, je vais essayer d'être un petit peu plus simple dans mes propos et repositionner la notion de l'énergie par rapport à l'éclairage. Déjà, l'éclairage, et notamment l'éclairage extérieur, pourquoi il a été créé ? Il a été créé pour les usages de l'homme, de l'être humain. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on a eu besoin de sécuriser, il y a déjà de nombreux siècles, les déplacements des êtres humains. Et c'est pour ça qu'on a créé l'éclairage. Donc, avant d'être électrique, il est passé par d'autres types de sources d'énergie. Peu importe, depuis plus d'un siècle, on est sur de l'éclairage électrique. Et cet éclairage électrique, effectivement, on a mis en œuvre au fil des décennies les technologies qu'on avait su mettre au point. Donc la première, c'est l'incandescence dont on a parlé. Je vous rappelle que c'est un simple filament qui est traversé par du courant, qui s'échauffe et qui envoie de la lumière. Mais l'essentiel de l'énergie est consommé sous forme de chaleur et ne nous éclaire pas. Donc c'est peu efficient. Pour autant, un éclairage public, ça fait à peu près 60 ans ou 70 ans qu'on n'en a plus, qu'on n'utilise plus, mais c'est ce que vous avez certainement encore dans certaines de vos maisons ou appartements.
Oui. Et il y a une source à incandescence qui est là depuis très longtemps, c'est le soleil. Et l'œil humain s'est développé pour ce type de source. Donc, entre guillemets, on a plus ou moins banni ces sources de lumière. Et maintenant, on se rend compte qu'elles étaient peu efficaces, mais que Le grand intérêt, c'est qu'elle fonctionnait comme le soleil, qui est une source à incandescence. C'est un corps en fusion, et une source à incandescence. C'est un corps porté à son point d'incandescence et de fusion.
Très bien. Et oui, tout à fait. Tout ceci est très juste et nous amènera certainement à de nouvelles évolutions technologiques. Donc, pour revenir un petit peu sur l'histoire de cette production de lumière artificielle, on a mis au point, les chercheurs ont mis au point d'autres technologies qu'on appelle les sources à décharge, qu'aujourd'hui, vulgairement, on dit qu'elles ne sont pas efficaces, mais en définitive, elles le sont véritablement, et en tout cas plus que l'essentiel des sources que nous avons dans l'habitat. Et puis, depuis une grosse dizaine d'années, arrive sur le marché la technologie LED dont on vous a parlé, qui est une technologie électronique, qui est très intéressante parce qu'elle est très pilotable, mais qui, derrière, a quelques travers. On en a parlé un tout petit peu ici, vous en entendez parler dans la presse à l'heure actuelle. Tout ceci est en train de se stabiliser d'un point de vue industriel, mais on a encore quelques progrès à faire sur cette source. Quoi qu'il en soit, elle est intéressante parce qu'elle a un très bon rendement énergétique. Donc, elle va nous permettre de faire des économies d'énergie. Très bien. Celles que nous aurons demain, elles seront encore plus performantes. Pour ce qui est des collectivités, on dit qu'elles ont besoin de faire des économies d'énergie. Oui, bien sûr, les collectivités ont des budgets de fonctionnement qui sont continuellement revus à la baisse. Et le poste énergie électrique pour l'éclairage en général, qu'il soit extérieur ou intérieur, pèse lourd dans la balance du fonctionnement. C'est vrai. Mais pourquoi on fait des économies d'énergie et les collectivités cherchent à faire des économies d'énergie ? C'est une démarche beaucoup plus large qui consiste à consommer moins d'énergie sur notre territoire, parce que qui dit consommer de l'énergie dit produire de l'énergie avec toutes les émissions de gaz à effet de serre que vous connaissez aujourd'hui en fonction des typologies de produits que nous utilisons. Voilà, donc aujourd'hui on a besoin d'évoluer aussi sur cette sphère-là de la consommation générale d'énergie électrique. Alors des fois, vous allez voir, c'est un petit peu antinomique à ce qu'on va dire sur la Smart City. Quoi qu'il en soit, certains ont probablement noté que quand Catherine m'a présenté tout à l'heure, je dirige un service qui s'appelle Sobriété et Efficacité énergétique. Donc efficacité énergétique, vous comprenez tous qu'il s'agit d'améliorer les process technologiques pour consommer moins d'énergie électrique. Mais la sobriété, ça ne parle pas véritablement de techno. Ça parle d'usage. Donc vous avez compris que l'éclairage public, il a été mis en œuvre pour les usages de l'homme, pour les activités que l'homme avait besoin de faire en espace nocturne. Alors ça peut être à l'intérieur du bâtiment, comme à l'instant où nous sommes. Ça peut être la nuit sur l'espace public. Très bien. Donc aujourd'hui, la faculté, quand les nouvelles sources à être très pilotables, ça nous ouvre le champ des possibles pour ce qui est de l'ajustement de la distribution de l'éclairage par rapport à la présence d'humains sur les espaces à éclairer. Et ça nous ouvre la porte aussi de l'expression artistique et de la multiplicité des effets lumière qui peuvent se faire de manière très mesurée. Donc je pense que Anne va en reparler. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les collectivités, elles cherchent à faire des économies d'énergie, mais elles cherchent aussi à sensibiliser la population au sens large sur le fait que la technologie, elle n'est pas toujours à notre disposition pour nous assister. On a le droit d'être acteur aussi, de participer à la limitation de la consommation d'énergie. Et vous allez voir qu'on va inviter la population à accepter ou même souhaiter des actes tels que l'extinction de l'éclairage à certains moments de la nuit, parce qu'il n'y a pas d'usagers dans la rue. Est-ce bien utile d'avoir de la lumière qui perturbe grosso modo la biodiversité et qui ne rend pas de service aux usagers? On va créer, et on crée déjà, des installations qui demandent un acte de la part de l'usager pour disposer du service. Typiquement, vous arrivez dans un square, vous voulez traverser un square. Ce square, il est dans le noir. Ben, vous aurez la possibilité d'appuyer sur un bouton, comme dans le couloir de votre maison, de disposer de lumière pour traverser ce square en voyant vous poser les pieds et en ayant au moins un sentiment de sécurité. Mais quand vous serez passé, le square en question, il va s'éteindre gentiment et on va laisser cet espace à la nuit. Vous allez avoir également, ça a été dit tout à l'heure par Dominique, des solutions où l'éclairage sera très faible dans les rues, voire éteint. Et simplement quand il y aura des usagers qu'on les détectera, alors on distribuera de l'éclairage qui peut être assez intelligent jusqu'au point de créer une zone éclairée qui vous encadre dans tout votre déplacement. C'est-à-dire que ça ne s'allume pas au moment où on arrive sous le candélabre, ça allume le tronçon de rue qui est devant et derrière vous, donc vous êtes exactement dans la même ambiance lumineuse que celle que vous connaissez avec l'éclairage pérenne, mais vu du ciel, il n'y a que le tronçon où se trouvent les usagers qui est éclairé. Le reste, donc on peut avoir plusieurs tronçons, mais le reste est dans le noir ou en tout cas très peu éclairé. Voilà, donc ces concepts-là, ils vont se démocratiser un petit peu. Donc c'est un petit peu ça qui se cache derrière le vocable éclairage intelligent, ville intelligente, smart city, on va y revenir je pense. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la philosophie, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça pour uniquement faire des économies d'énergie sur la facture de fonctionnement, c'est aussi pour que collectivement, nous consommions moins d'énergie et donc nous ayons un impact environnemental plus limité.
Bien, merci beaucoup. Ça veut dire que, par exemple, pour quelqu'un comme toi, Anne, qu'est-ce que ça induit, le fait d'utiliser des nouvelles sources ou de répondre à ces demandes de maîtres d'ouvrage, mais aussi des usagers en matière de confort visuel nouveau?
J'étais toujours pour qu'on éclaire moins. Donc, c'était au début de ma carrière, c'était problématique parce que quand je répondais pour des plans lumière, on me disait vous faites des plans d'ombre. Alors moi, je prenais ça comme un compliment, mais parce que je pense que c'est le mot sobriété, c'est-à-dire que quand on est dans un espace nocturne, il faut accepter que c'est pas le même espace que la journée. On peut très bien donner par la lumière des moyens de se repérer sans avoir à inonder l'espace public de lumière. Donc, je pense qu'il faut, pour ne pas consommer d'énergie inutilement, pour ne pas dépenser des moyens publics pour des choses qui ne servent à rien, et c'est pour ça que moi, j'ai encore quelques réserves sur le Smart City, parce que c'est un peu comme le paquet de Smarties, il y a plein de couleurs, mais il y a beaucoup de sucre. Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est peut-être aussi, et je pense qu'on va arriver à ça, les gens vont se réhabituer petit à petit, vont redompter la nuit tranquille, en tout cas, pour ne pas dire l'obscurité. C'est-à-dire qu'il faut aussi, peut-être que la personne dont tu parlais qui va traverser le square, là, on va lui proposer d'appuyer sur le bouton. Et puis, 5 ans plus tard, quand elle appuiera sur le bouton, ce sera 2 fois moins éclairé. Et ainsi de suite. Je pense qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire que ça, c'est comme pour l'eau, quoi. Quand vous avez le robinet à disposition, voilà, vous prenez une douche avec 200 litres. Quand il faut que vous alliez chercher l'eau, vous prenez votre douche avec une bassine. Et je pense qu'on va arriver avec les... Il faut qu'on fasse des économies d'énergie. Donc il faut aussi, entre guillemets, en tant que maître d'œuvre, proposer des espaces où les gens verront que c'est tout à fait possible d'être bien, de partager, d'aller d'un point à l'autre avec moins de lumière. Et on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui que les normes aillent tout à fait dans le même sens. Donc parfois, c'est une grande bataille. C'est-à-dire que c'est dire, oui, ben alors, on va pouvoir éclairer très fortement, on peut le faire. Mais s'il vous plaît, vous allez voir, quand on éclaire beaucoup moins, c'est aussi bien. Mais il faut pouvoir avoir le dispositif qui éclaire beaucoup. Et peut-être qu'on pourra, à un moment donné, éclairer moins. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment habituer les gens à se réapproprier une certaine qualité d'obscurité dans la ville.
Tout à fait. Je rebondis un petit peu pour donner une anecdote. Par exemple, par rapport à cette notion de square, nous avons ce genre de situation disposée sur la ville de Bordeaux. C'est assez amusant d'observer les comportements. Le square en question, il est tout près de l'hôpital Pellegrin, là où se trouve l'université de médecine. Et donc c'est un espace qui est traversé tard le soir, parce que les étudiants de médecine ont beaucoup d'enseignements tard en soirée. Et ce square, il est entouré d'habitations, donc c'est une sorte de quartier résidentiel. Et c'était très amusant de regarder le comportement des usagers de cet espace. Les habitants riverains, pour la plupart, traversent le square, vont promener leurs chiens, se baladent le soir et n'allument jamais la lumière. Ils n'ont pas besoin de la lumière, parce que la lumière résiduelle de la ville, si je peux dire ça comme ça, rien que les rues qui sont autour, ça donne un résiduel de lumière suffisant pour voir où on met les pieds. Et eux, ils n'ont pas de sentiment d'insécurité parce qu'ils connaissent leur quartier. Ils savent que leur quartier, il n'y a rien qui craint. Pour autant, les gens qui sont en transit, qui connaissent moins les lieux, ben eux, ils ont une petite appréhension. Parce qu'on a tous un rapport à la lumière qui est lié à notre culture, à notre passé, à notre enfance. On est tous nés avec la lumière artificielle. Et ça nous rassure beaucoup de pouvoir percevoir notre environnement et d'être en capacité de défense, si je peux dire ça comme ça, surtout prendre à ses jambes et courir. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse dans la parenthèse, quand on étudie les comportements, on s'aperçoit que ce sont les personnes âgées qui réclament toujours le plus de lumière, pour des raisons évidentes, hein, d'acuité visuelle, en vieillissant on y voit de moins en moins, et en plus de vélocité, parce qu'on se sent moins à l'aise pour se défendre, pour fuir si on était en danger, etc. Les plus jeunes personnes ne ressentent pas ce problème-là. Enfin, en tout cas, beaucoup moins. Donc, globalement, ce qui est intéressant de retenir, c'est que l'éclairage, c'est de la relativité. C'est une relation un petit peu individuelle par rapport à notre environnement. Et on sent bien que dès lors que les usagers vont se sentir en sécurité, ils accepteront sans difficulté qu'il y ait moins d'éclairage, voire pas du tout d'éclairage. Il y a une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, hein, pourquoi on éclairait tout le temps avant et pourquoi aujourd'hui on s'autorise toutes ces nuances, c'est aussi parce que les technologies ne le permettaient pas. Les sources qu'on utilisait en éclairage extérieur étaient très efficientes énergétiquement. Pour autant, elles avaient quelques défauts technologiques, notamment celui de ne pas pouvoir s'éteindre et se rallumer immédiatement à la demande, comme on le fait dans l'habitat avec l'interrupteur. C'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas rentré dans l'habitat, ces technologies de source-là, parce que c'était des usages qui étaient trop décalés. Voilà, donc, c'est pas qu'on ne veuille pas le faire depuis longtemps, c'est juste que la techno ne le permettait pas. Et la LED, ça fait partie, l'arrivée de la LED, ça fait partie de ce cahier des charges. À un moment donné, on a besoin d'un outil, ou tout au moins d'une source productrice de lumière, qui permette toutes ces nuances d'usage et qui vont ouvrir après le champ des possibles dans l'espace urbain, mais bien sûr dans l'habitat aussi. Hein. Ce sont des sources qui rentrent massivement en ce moment dans l'habitat. Et vous avez certainement remarqué qu'il y avait ce qu'on appelle de la domotique, hein, de l'intelligence embarquée derrière, qui se déploie de plus en plus. Alors dans l'habitat domestique, pas encore beaucoup, mais dans les bâtiments d'entreprise ou publics, on a de la domotique de manière quasi systématique, notamment sur l'éclairage. Voilà la petite parenthèse que je voulais rajouter. Oui, je vais peut-être passer la parole à Dominique, parce que je parle beaucoup.
Non, c'est parce que justement, il voulait rebondir sur cet exemple-là.
En fait, effectivement, je voulais déjà compléter par une petite anecdote, information, c'est que déjà, dans l'histoire de Suna Design, qui a uniquement 5 ans d'existence, nous avons vécu vraiment déjà deux étapes. La première étape, ça a été de montrer que l'énergie solaire était capable d'éclairer via des modules LED au moins aussi bien que l'existant, c'est-à-dire le lampadaire raccordé. Donc ça, ça a fait l'objet de plusieurs années de développement de produits, mais aussi de capacité à convaincre qu'effectivement, sur le terrain, on éclairait aussi bien que l'existant. Donc ça, l'énergie solaire, maintenant, c'est acquis et fiable et répond à un vrai besoin d'éclairage du même type que, en tout cas au moins aussi confortable que l'éclairage raccordé EDF. Et puis, il y a depuis 18 mois, une deuxième étape qui a été franchie avec un nouveau type de besoin qui est apparu, qui est de dire... maintenant qu'on sait que c'est fiable, le solaire, est-ce que ça peut éclairer finalement de manière plus intelligente et est-ce qu'on peut moduler les profils d'éclairage en fonction soit des créneaux horaires, soit de la présence d'un piéton ou d'un véhicule qui passe. Donc pour rejoindre effectivement la notion de sobriété que Ghislain évoquait juste avant. Et donc le deuxième élément, c'est justement le square qu'évoquait Ghislain, qui est derrière l'hôpital Pellegrin, cité Carrère. Donc on a eu, grâce à Bordeaux Métropole, l'opportunité, il y a 2 mois maintenant, au mois de juillet, d'installer au milieu de ces lampadaires raccordés intelligents qui vous suivent avec le train de lumière quand vous passez, on a été en mesure d'installer des produits solaires qui se sont interconnectés, synchronisés avec les lampadaires raccordés et qui fournissent exactement la même fonction. C'est-à-dire que, indépendamment que vous passiez sous un lampadaire raccordé EDF qui s'éclaire quand vous passez, ou sous un lampadaire solaire Suna qui vous détecte également quand vous passez, vous avez effectivement la lumière qui vous suit et vous n'êtes même pas en mesure de faire la différence entre l'éclairage LED raccordé et l'éclairage LED solaire qui, effectivement, vous apporte le même confort d'utilisation. Voilà.
Simplement maintenant, est-ce que dans la salle il y a des questions? Peut-être que à ce niveau de notre discussion, vous avez peut-être des interventions, vous voulez peut-être poser des questions.
Merci. Vincent Dechanne, concepteur lumière. Je pense que dans l'éclairage, enfin dans l'usage de la lumière dans la ville, depuis quelques années, certes grâce à la technologie, on a une réappropriation de la lumière de la ville par l'individu. Il y a 10 ans, c'est la collectivité qui mettait on le soir à 19h quand la nuit tombait et qui coupait le lendemain matin à 6h. Aujourd'hui, par la détection de présence, par peut-être bientôt la possibilité d'allumer plus ou moins fort un luminaire quand on va traverser un square, etc., avec toutes ces nouvelles technologies, c'est l'individu qui se réapproprie le confort dans lequel il souhaite évoluer. Et ça, je crois que c'est vachement important et que c'est quelque chose qu'il faut... Enfin, voilà, on passe d'une société où on était géré globalement à une société où on gère individuellement les choses.
Oui, par rapport à ça, il y a quelque chose que je voulais aborder. C'est tout ce qu'on appelle le light social movement. Donc, c'est comme dans l'architecture, les projets participatifs. Il y a dans la conception lumière en France et à l'international des gens qui développent des démarches de projets participatives parce que, entre guillemets, on a souvent considéré que le lighting design, la conception lumière, c'était pour les nantis. mais il y a plein d'expériences qui se passent dans plein de pays du monde, en Colombie, il y a plein de choses qui se passent un peu partout, et où c'est à la fois la mise à disposition, par le biais parfois d'outils comme ce Tsuna Design, de sources qui permettent aux gens, quand l'infrastructure n'est pas aussi bien structurée qu'ici et qu'à la métropole bordelaise, de pouvoir quand même éclairer leur quartier. Et en Europe aussi, dans des endroits, on va dire, où on peut se dire, bon, on va mettre des spots, et puis juste pour que ce soit la sécurité. Non, non, il y a des démarches, il y a des gens qui ont vraiment bâti toute leur démarche de conception lumière sur cet échange avec les riverains. En tant que conceptrice lumière, on va dire ça me fait vraiment beaucoup plus briller les yeux que, entre guillemets, toutes ces technologies dont on ne sait pas encore exactement comment elles vont pouvoir être mises en œuvre et durer dans le temps, parce que là, la lumière, elle fait du lien et elle a un sens. Et dans le sens de la sobriété, c'est-à-dire que la lumière, elle a été choisie par les gens, elle a été disposée par les gens. À Haïti, il y a même des endroits, ils sont tellement pauvres que si vous mettez un luminaire dehors, c'est clair, ils vont avoir envie de partir avec, parce que ils vont acheter à bouffer avec. Hein. Donc, entre guillemets, ce sont les commerçants qui, le soir, mettent l'éclairage, l'appareil d'éclairage devant leur boutique, et quand il n'y a plus personne dans la rue, ils rentrent l'appareil, parce que, entre guillemets, comme ça, les gens ne vont pas être tentés de les dérober. Donc, il y a plein d'idées.
Bonsoir. J'avais juste une question par rapport à comment concevoir.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Non, enfin, c'est pas. J'avais juste une question par rapport à comment nous on peut concevoir notre propre lumière, parce que j'ai vécu à Melbourne et il y avait. C'était le centre de recherche, je crois, qui avait mis en place, un peu sur l'équivalent de la place de la Victoire ici, ils avaient mis des balançoires sur lesquelles se balançaient les gens, qui produisaient de la lumière. Et donc j'ai été les voir, et je me suis dit, mais c'est fantastique votre idée, parce qu'en soi, on pourrait produire notre propre lumière, et du coup, dans la ville, pourquoi ne pas mettre ça dans les parcs municipaux, ou même dans notre propre maison, où... Si nos enfants veulent regarder la télé ce soir, eh ben, qu'ils se produisent leur propre énergie. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Voilà.
Alors, vous avez utilisé le bon mot pour terminer. En fait, ce n'est pas une histoire de production de lumière, c'est une histoire de production d'énergie. Effectivement. Alors, ce sont des choses qui existent déjà, vous l'avez peut-être remarqué, y compris sur le territoire français métropolitain. Dans les gares, vous avez eu des gens qui pédalaient pour recharger leur téléphone, ce genre de choses-là. Vous allez le voir arriver sur la ville de Bordeaux, dans pas longtemps. Les projets sont faits, hein, déjà depuis 2 ans, où effectivement, on va avoir des parcs publics qui vont être très, très sombres et dans lesquels il y aura des zones de rassemblement, des jeux d'enfants ou des zones ludiques, on va dire, voire des expressions artistiques aussi, qui seront dans le noir et où les gens pourront disposer d'une faible lumière en produisant leur énergie eux-mêmes. Donc on aura les deux cas de figure, celui que j'exprimais tout à l'heure où c'est parti.
De quelle manière ?
De quelle manière on va.
C'est participatif, oui, ça marche, oui,
ouais,
pardon.
Ça marche.
J'ai pas le retour.
De quelle manière les gens vont être amenés à produire même leur énergie ?
Alors ça va être essentiellement des agrès de sport, donc genre des pads, des vélos, des agrès de ce type-là, hein, des levées d'haltères. Et puis, je termine, il y aura également des choses un petit peu plus simples qui sont tout simplement l'allumage à la demande. C'est-à-dire qu'on veut s'installer, pique-niquer là, taper la belote, ce que l'on veut, on appuiera sur un bouton, on sait qu'au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, la lumière va descendre tout doucement, on n'aura plus de lumière. Si on n'en veut plus, on n'en a plus. Si on est parti, elle s'éteindra toute seule. Et si jamais on en veut encore, on appuie sur le bouton. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau dans les usages. Donc ces choses-là, c'est en train d'arriver. Après, la production individuelle, vous pouvez la faire de la même manière à la maison. Hein. Tout pareil, effectivement. Les enfants, ils peuvent pédaler ou faire de la balançoire ou n'importe quoi d'autre. Bon, mettez pas tout sur le dos des enfants quand même. Mais bien sûr que c'est possible. Alors, il faut rester modeste dans les niveaux d'énergie que l'on saura produire. Hein. Ça reste quand même assez marginal. Pour autant, dans un espace très sombre, Il faut très très peu de lumière pour y voir. Hein. C'est une histoire de relativité, hein, je vous disais, la lumière. Et donc, si on veut boire un coup dans un parc public, on n'a pas besoin d'avoir la lumière qu'on a ici, loin de là. Et donc, très peu de production d'énergie suffiront à nous donner une lueur qui suffira à se voir et puis à partager. Hein.
J'ai juste une anecdote parce qu'on est à Agora. Il y a plus de 10 ans, pour une des premières Agora, l'association des concepteurs lumière avait lancé un concours pour des petits pavillons lumineux. Et moi, j'avais proposé un square où on pédalait et tous les jeux étaient lumineux. On jouait sur la cinétique. Eh bien, ils n'ont pas choisi mon projet. Voilà. Alors, on dit que c'est d'avoir tort, d'avoir raison trop tôt. Mais voilà.
Ils ont fait une publicité depuis, vous l'avez vu, avec tous les gens qui pédalent.
Il n'y a pas qu'à Melbourne, à Toulouse, sans aller bien loin, il y a eu une expérience qui a été réalisée il y a 5-6 ans avec un trottoir actif en sortie de métro. Et les gens qui passaient sur ce trottoir, donc appuyés sur des sortes de gros poussoirs, des pavés, qui produisaient de l'énergie électrique et qui étaient consommés tout de suite après sous forme d'éclairage. Voilà. Donc il y a déjà des expériences comme ça qui ont été réalisées et qui ont fonctionné quelques mois. Voilà, du type de prototypage, des choses ponctuelles. Voilà, mais qui ne sont pas restés, mais qui prouvent bien que le concept et l'idée, le prototype, le concept existe et est réalisable.
Et sans oublier le solaire en complément de tout ça, qui peut permettre maintenant à un prix très très abordable pour une qualité très très élevée de compléter ces solutions pour avoir une solution complètement mixte et autonome pour répondre à l'ensemble des besoins.
Oui, mais c'est bon, pédaler, ça fait faire du sport, c'est pas plus mal. Hein. Plutôt qu'effectivement être affalé dans son canapé pour regarder la télé, pédaler, c'est peut-être pas plus mal. D'autres questions, peut-être ? Non ? Eh bien, écoutez, est-ce que vous voulez aborder cette question de la Smart City avec, pour expliquer un petit peu, parce que c'est un terme qui commence à être un petit peu assez employé, et puis peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est que la Smart City, la ville intelligente, avec les bons côtés, et puis toutes les questions qu'on peut se poser sur le fonctionnement de cette Smart City. Tu veux commencer ?
Je peux commencer, je peux essayer. Alors, la Smart City, effectivement, c'est un mot très à la mode. C'est un concept, je pense que vous le connaissez tous. C'est un concept qui est très séduisant, y compris pour les pouvoirs publics, parce qu'il va permettre de connaître, gérer, piloter un territoire. Et il a aujourd'hui de plus en plus de sens dans l'efficience, je pourrais appeler environnementale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a beaucoup d'activités dans des espaces urbains assez concentrés et on est tous un petit peu victimes de cette concentration, de notre surconsommation, de nos déplacements, etc. Et on a le sentiment que la technologie va pouvoir nous aider à limiter nos impacts sur notre environnement et rendre la vie un petit peu plus agréable dans l'espace public, et tout particulièrement dans l'espace urbain. Malheureusement, la face cachée du concept, c'est que on va venir mettre en œuvre beaucoup de technologies pour avoir une vision de ce qui se passe sur notre territoire. Puisqu'en fait, toute la logique, elle consiste à recueillir des données un petit peu partout sur le territoire, à travers nos usages, nos déplacements, nos consommations, et amener ça dans des très grandes bases de données numériques, hein, ce qu'on appelle les big data, et extraire de ces banques de données des analyses. Alors il y a des choses qui sont très intéressantes parce que on va avoir beaucoup de données qui vont être mises à disposition gratuitement des citoyens. Donc il va y avoir des initiatives qui vont naître des citoyens et qui vont certainement inventer de nouveaux concepts pour améliorer les usages dans la ville. Mais à côté de ça, il va falloir appareiller nombre d'installations qui ne le sont pas aujourd'hui ou qui le sont de manière assez limitée, juste pour les modèles de gestion qui sont en place jusqu'à présent. Donc ça veut dire quoi la Smart City? Ça veut dire une ville communicante en définitive. L'idée, c'est de pouvoir remonter l'information, les données, mesurer sur tous nos équipements. Donc les luminaires dont on a parlé tout à l'heure, il y a quelques années, et c'est, je rappelle, plus de 80% des luminaires encore sur le territoire français qui ne sont absolument pas intelligents, c'est-à-dire on leur envoie du courant à l'intérieur à la nuit venue et on retire le courant le petit matin, ça s'éteint et il ne se passe rien d'autre. Aujourd'hui, je vais dire, on fait des systèmes intelligents, c'est-à-dire de la communication locale avec les systèmes dont on a parlé de détection, d'abaissement de puissance au milieu de la nuit, etc. Bon, y a plein de concepts. Mais tout ça, ce n'est pas tellement communicant encore pour l'instant. On ne fait que de la communication de proximité. Demain, l'idée, c'est de remonter l'attitude, on va dire, de ces équipements sur des serveurs. Donc, il va falloir toute une chaîne de communication pour que du lampadaire, il parle à un concentrateur qui sera où vous voulez, qui ce concentrateur va arriver sur un récepteur centralisé qui va envoyer à des serveurs. Et après, on retravaillera la donnée pour la mettre dans des formats acceptables pour la plupart des informaticiens. Et ces données-là, un nombre sera mis à disposition du public à travers l'open data. Et les autres seront réservés aux spécialistes de gestion des territoires pour essayer d'aller vers des améliorations de comportementaux ou d'équipements. Donc on va pouvoir faire des choses passionnantes, on va pouvoir faire beaucoup de prédictifs. Le concept il va très loin, c'est-à-dire, je donne un exemple qui me vient tout de suite à l'idée. Par exemple, l'éclairage public est éteint entre 1h et 5h du matin à Mérignac depuis quelques jours. Bon, c'est le cas. Très bien, il y a un accident, je sais pas, il y a un incendie, par exemple, dans une maison riveraine de Mérignac. Aujourd'hui, panique générale, tout le monde est dans le noir, on ne sait pas trop comment faire, arrivent les pompiers, les ambulances, ce que vous voulez, et tout le monde est dans le noir. Demain, l'avantage, c'est que quand les pompiers reçoivent l'information qu'il y a un incendie à telle adresse, ils appuient sur un bouton, on a déjà prévu tout le système pour que l'éclairage de ce quartier se rallume et probablement même l'éclairage entre la caserne des pompiers et ce site-là pour que les pompiers puissent se déplacer vite en sécurité, si je peux dire ça comme ça, sans avoir le risque de ne pas voir un piéton ou un cycliste qui passe par là. Voilà, donc ça c'est pour donner un exemple de ce que permettrait la Smart City. Elle va nous permettre également d'affiner un petit peu toutes nos dépenses sur l'énergie, quelle qu'elle soit. Et le spectre est très large, en fait. Derrière la Smart City se cache le concept également de Smart Grids. Alors, ça vous parle peut-être un petit peu. Les Smart Grids, ce sont les réseaux intelligents qui consistent, à un moment donné, à ne pas produire l'énergie sur une centrale quelle qu'elle soit, supposons nucléaire, et amener depuis très loin l'énergie jusqu'au territoire de Bordeaux, par exemple, pour la consommer ici. L'idée, c'est d'être capable de produire beaucoup plus localement, avec divers systèmes, dont les systèmes photovoltaïques dont on vient de parler, et de consommer cette énergie assez près. Et donc, on va créer comme ça des sortes de micro-réseaux qui sont capables de gérer de la production, de la consommation proche, et toute... la complexité de facturation qui va avec. Demain, on aura la possibilité de délester le chauffage de certains bâtiments pour permettre la recharge de véhicules électriques, qui, ces mêmes véhicules, à un moment donné, fourniront de l'énergie dans un créneau horaire différent sur votre téléviseur ou votre four, parce que à ce moment-là, on a un pic de production et qu'il faut lisser tout ça, donc on a de l'énergie stockée localement qui va permettre de lisser cette pointe de consommation. Enfin, bref, c'est un système qui est assez complexe et je ne vous parle là que du sujet de l'énergie. Il y en a d'autres qui sont derrière ce concept-là de Smart City. Voilà, pour autant, on n'en est juste qu'au début. On n'en est qu'au début et Parler comme ça, c'est simple. Mais quand on veut faire de la technique qui fonctionne, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on est parti pour de longues années de développement. Les industriels travaillent beaucoup dessus. Mais il ne faut pas faire de la technologie pour de la technologie. À un moment donné, il faut aussi être raisonnable. La low technologie, ça existe aussi. Et donc, à un moment donné, il faut bien mesurer quels sont les besoins humains et repositionner toujours l'humain au milieu du système, y compris dans les grands centres urbains comme le nôtre. Donc, ça mettra du temps à se déployer. Anna en a parlé tout à l'heure. Hein. On sait faire papa-maman avec beaucoup de choses, beaucoup d'équipements technologiques, mais ils n'arrivent pas encore dans l'espace urbain. Les collectivités mettent du temps à les mettre en œuvre. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas. C'est juste parce que derrière, la collectivité, elle se doit d'être garante de la maintenance, de la pérennité des installations. Et avoir un super produit tout nouveau, hyper innovant, c'est génial, on peut faire une expérimentation, mais faire le choix de déployer sur l'ensemble d'un territoire des milliers de systèmes qui demain tombent en carafe, ça, c'est pas imaginable, parce que celui qui paye la note, c'est vous et moi. C'est nous. Donc, il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi avec les investissements publics. Voilà, donc, on est obligé de passer par des phases de validation de tous ces systèmes, de tous ces process, avant de les déployer. Donc, ça sera quand même assez long, et il y a certainement beaucoup d'orientations prises aujourd'hui qui vont disparaître comme elles sont venues, parce qu'on n'en trouvera pas les points d'efficience, en fait. Et les équilibres, notamment financiers, parce qu'on est quand même dans une société qui a besoin de s'équilibrer financièrement. Donc on est au début de la démarche. Il se fera des choses, c'est sûr. Maintenant, ne croyez pas que tous les lampadaires vont parler demain matin. Ça ne sera pas le cas. Ça mettra très, très, très longtemps. Bon, il y a des choses qui vont se faire. Hein. Dans la mobilité, par exemple, on est en train d'avancer très vite. Tout ça, ça va être interconnecté avec les équipements de l'espace public. Ce que dans ma sphère, on appelle les équipements connectés. Donc, ces équipements, ils vont être en interaction directe avec des réseaux de courte portée, avec vos smartphones, par exemple, avec votre vélo, avec votre véhicule, si voilà, vous êtes en déplacement. Voilà. Et il va transiter des choses bien et des moins bien. Il y aura beaucoup de publicité, vous pouvez vous y attendre parce que c'est un petit peu un catalyseur de financement. Donc il y a toujours une démarche un peu mercantile derrière. Et la collectivité, ben, elle se doit de trouver les équilibres dans tout ça et de ne pas faire non plus des choix trop hâtifs.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Ghislain. C'est vrai que on nous parle de la Smart City, etc. Et les technologies, il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dedans. Mais je pense que c'est important de vraiment réfléchir aux usages. Et je voulais en profiter pour vous signaler que début novembre aura lieu à Paris un événement international sur la conception lumière architecturale. Donc c'est un événement qui a lieu tous les deux ans dans un pays différent. Ça s'appelle le Professional Lighting Design Convention. C'est à Paris, c'est du 2 au 4 novembre. Et pendant ces conférences, il y a quatre conférenciers en même temps, quatre thèmes. Donc vous avez la recherche, vous avez les cas pratiques, les cas... Et il y a un thème spécifique à chaque édition. Et le thème cette année, c'est Urban Life 4.0. C'est-à-dire, il y a 12 conférences qui vont être autour des nouveaux usages urbains, de la technologie, évidemment avec quand même un fort tropisme vers les usages de l'éclairage, mais pas seulement. Donc, c'est vraiment des intervenants du monde entier qui sont déjà dans le questionnement de toute cette proposition technique. Parce que là, c'est un peu ça, c'est avant Noël. Là, on nous promet plein... Enfin, la liste au Père Noël est immense. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y aura vraiment dans le paquet? Et donc, il y a vraiment des gens de tout domaine, pas seulement des éclairagistes, des chercheurs dans tous les domaines qui se posent la question. Et je pense que, du coup, moi, j'y vais pour vraiment savoir un peu toutes ces réflexions en pointe. Notamment le retour de l'obscurité est un des thèmes alors qu'on parle 4.0, on dit plus de technologie, mais parfois oui, ça a des facettes.
Alors justement, retour de l'obscurité, je sais que M. Canal fait partie d'une association qui, ou en tout cas, intervient dans les problèmes de nuisances lumineuses. Et est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ces aspects?
Alors oui, effectivement, j'ai travaillé pour un COST européen, une coopération scientifique et technique européenne qui s'appelle Loss of the Night Network, qui concerne la perte du ciel étoilé. Au mois de juin, j'étais à LPTMM, c'est la Light Pollution Measurement. C'était une conférence qui concerne les mesures de lumière, de luminance et la quantification de ce qu'on appelle la pollution lumineuse, notamment atmosphérique, que l'on peut voir quand on est loin d'une ville et qu'on s'en approche par l'autoroute. On voit un halo lumineux au-dessus de l'autoroute. Donc ça, c'est la diffraction des particules présentes dans l'atmosphère, de tout l'éclairage urbain. Et en fait, c'est toute la lumière qui est perdue, qui est envoyée vers le ciel et qui ne sert à rien. J'ai un chef d'équipe qui m'a raconté une anecdote. Il faisait un barbecue sur sa terrasse et ça manquait un peu de lumière. Donc il y a son épouse qui est entrée dans le salon et puis qui ramène le lampadaire halogène. Elle le plante au milieu de la terrasse. Elle dit, mais c'est bizarre, ça n'éclaire pas. Non, bah, évidemment, la lumière partait vers le ciel, il n'y avait rien pour la réfléchir. Donc on envoyait 100% de la lumière vers le ciel. Envoyer de la lumière vers le ciel, ça ne sert à rien. Et quand on parle d'éclairage de sobriété, on y est. L'éclairage des années 70, l'éclairage à boules, les luminaires à boules, c'est la pire espèce de catastrophe en termes de luminaire, puisque plus de la moitié, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le pied en dessous qui porte, donc si on avait une sphère pure suspendue en l'air, on aurait 50% d'une partie qui part vers le ciel et 50% utile. C'est encore pire, il y a le pied. Donc on a moins de parties utiles que de parties de lumière qui part vers le ciel. Donc ça, c'est l'éclairage, Ghislain sera d'accord avec moi, qui est à bannir, hein, et qui n'est plus, je pense, d'actualité. Il en est resté. Parce qu'on en a aussi sur la fac de sciences à Toulouse. Il y en a encore. Mais il y en aura encore pendant 20 ou 30 ans, parce que d'ici qu'on les élimine, le taux de renouvellement de l'éclairage en France est de 3%. Voilà, donc il faudra 30 ans avant d'avoir renouvelé l'intégralité du territoire national. Pour donner d'autres exemples, au Japon, ils sont à 60% de leur renouvellement total. Mais les Japonais sont aussi ceux qui ont inventé la LED. Shuji Nakamura, qu'on a invité, parce que je fais aussi partie d'Optique 2018, du comité de pilotage d'Optique 2018, qui est une conférence nationale, on a invité, et juste avant, il y a une conférence internationale, Shuji Nakamura, qui est le prix Nobel 2014, à venir pour cet événement qui sera en juillet, début juillet 2018. Donc, je disais la LED. La LED a le gros avantage d'envoyer la lumière là où on le veut, par rapport aux luminaires à boules, etc. Donc ça, c'est un gros avantage. J'en parlais de pollution lumineuse. La pollution lumineuse, oui, ben on la rencontre, on la visualise très bien avec le luminaire à boules. Et cette pollution lumineuse va impacter non seulement les pertes d'énergie, donc du gaspillage, de la production d'énergie inutile qui repart vers l'atmosphère, donc l'impact carbone, mais aussi l'environnement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça touche, et on le sait moins, les insectes pollinisateurs. Donc ça touche les agriculteurs qui ont des vergers qui sont moins bien pollinisés. Donc ça touche les insectes pollinisateurs, ça touche illustrer avec un autre exemple, les anguilles qui viennent frayer, qui remontent les cours d'eau. Un pont éclairé est une barrière infranchissable pour une anguille. Voilà, il y a beaucoup comme ça de poissons qui circulent la nuit, qui vont frayer, qui remontent les cours d'eau. La lumière est une nuisance lumineuse pour beaucoup. Et aussi les oiseaux migrateurs qui regardent, qui se fixent par rapport aux étoiles. L'exemple des Twin Towers, quand ils ont remplacé les Twin Towers par des faisceaux lumineux, a énormément perturbé les migrations d'oiseaux. Beaucoup d'oiseaux se mettaient à tourner autour de ces faisceaux de lumière et ne partaient plus. Voilà. Donc la pollution lumineuse touche énormément les animaux, les insectes, mais aussi les humains. Un mauvais éclairage urbain, même bien directionnel avec qui n'envoie pas vers le ciel, mais un mauvais éclairage urbain, c'est aussi un éclairage urbain qui va éclairer l'intérieur des maisons. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ben, si vous êtes chez vous en train d'essayer de dormir, vous êtes obligé de fermer votre volet parce que vous avez de la lumière qui vient violer votre sommeil, quoi, qui rentre chez vous alors que vous ne le souhaitez pas. Ça aussi, c'est un mauvais éclairage. Pour reprendre, parce que j'avais lancé une perche tout à l'heure, mais je ne sais pas si je vais avoir la question, sur l'éclairage à LED, et souvent ce qu'on trouve sur l'éclairage à LED, le grand drame, c'est ce qu'on appelle la lumière bleue dans l'éclairage à LED. Pourquoi ? Parce qu'il y a un pic de lumière bleue. Donc Shuji Nakamura a eu son prix Nobel pour ça, pour la lumière bleue, parce qu'on ne peut pas faire de lumière blanche facilement sans avoir du bleu. Et le principe de base est équivalent à celle du luminaire du fluorescent. C'est-à-dire qu'on a une décharge dans l'ultraviolet pour le tube fluorescent. On a donc ultraviolet, bleu, on est dans ce type de longueur d'onde, et on vient exciter du phosphore. Voilà. Donc la poudre blanche qu'il y a sur le tube fluorescent, c'est du phosphore. Pour les LED, c'est la même chose. On a une petite goutte de phosphore qui est posée dessus, et le bleu vient se transformer en lumière blanc chaud ou blanc froid. Et il y a toujours ce pic résiduel de lumière bleue. Alors effectivement, je vais d'abord faire l'avocat du diable, effectivement c'est dangereux. Effectivement, c'est dangereux parce que la rétine est très sensible dans cette longueur d'onde-là. Chez les jeunes enfants, le cristallin est extrêmement transparent et la lumière bleue, l'iris, ne réagit pas à la lumière bleue. Il reste grand ouvert sur la lumière bleue. Donc, pas de protection au niveau de l'iris, pas de protection au niveau du cristallin et la rétine reçoit toute cette lumière bleue et en plus, elle est très sensible et il peut y avoir une perte de la vue complète, une cécité absolue et sans retour. Voilà, non réversible avec ce genre d'impact. Mais alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que après, en vieillissant, le cristallin est beaucoup moins transparent et on est moins impacté après 20 ans, un peu moins. Donc il y a une sorte d'un effet de filtre. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le territoire national, on n'a pas pour usage domestique des lampes à LED ou de ce type, enfin qui seraient dangereuses pour l'être humain. Donc il y a des filtres qui permettent d'éviter ça. Les seuls usages que l'on peut trouver de lumière bleue, donc les lasers, les choses extrêmement intenses en termes de luminance, ce sont plutôt des professionnels qui en ont l'usage et ils savent où l'orienter, où le diriger, comment s'en servir et eux connaissent les précautions à prendre. Mais pour le grand public, il n'y a pas de danger avec la lumière bleue. Un exemple simple, c'est que le ciel, en général, il n'est pas vert, il n'est pas rouge non plus. Le ciel, il est bleu et l'œil, l'humain, est fait aussi pour cette lumière bleue. Maintenant, la lumière bleue, ce n'est pas un danger, et c'est même plutôt un outil. Pourquoi ? Parce que quand on connaît quel est l'impact de la lumière bleue classique, sans danger, c'est-à-dire la lumière bleue, les dangers, c'est la quantité et la durée. Ce n'est pas un facteur simple. La quantité, c'est la luminance, c'est la quantité de lumière qui va impacter et également la durée. La lumière bleue, comme je le disais, et la LED, il n'y a pas de risque en Europe parce que les produits sont testés, il n'y a pas de danger de ce côté-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière bleue va jouer sur la mélatonine. La mélatonine, c'est la molécule du sommeil. Et on peut jouer avec les lumières blanc froid et les lumières blanc chaud et jouer de la qualité de la lumière bleue sur la mélatonine et donc sur le sommeil. Exemple, on ne va pas mettre une lumière blanc-froid près de sa table de chevet. On ne va pas mettre non plus une lumière blanc-chaud dans sa cuisine. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de voir la qualité des aliments, si elle est périmée ou pas. Et un blanc-chaud dans sa salle de bain, pourquoi pas ? Mais en général, le matin, on prend sa douche, on a envie de se réveiller. Donc, lumière blanc-froid dans la salle de bain, ça va réveiller. On va tout de suite revenir à un état d'éveil et couper la mélatonine assez rapidement. Blanc-chaud au niveau de la table de chevet, pour pouvoir s'endormir facilement. Et une étude de Bordeaux, justement, le laboratoire de sommeil, et un laboratoire du sommeil et quelque chose comme ça, à Bordeaux. Vous pouvez taper sur Google CNRS, Bordeaux, sommeil. C'est Symphy ? Ah oui, voilà. Et vous tapez ces mots-clés-là, lumière bleue, et vous allez tomber sur un article qui est toujours en ligne, qui fait une comparaison qui a été faite avec des chauffeurs routiers, prise de sang, lumière bleue dans attention, l'acuité visuelle, attention sur la route. et ils ont comparé la quantité de caféine à la lumière bleue. Et si mes souvenirs sont bons, ça doit être autour de 15 cafés équivaut à une lumière bleue dans l'habitacle. Donc ce n'est pas négligeable du tout, 15 cafés. Le gros avantage, quand on est étudiant par exemple, ou même quand on est actif et qu'on a besoin de travailler, quand on connaît l'impact de la lumière bleue sur le sommeil et sur la mélatonine, il vaut mieux utiliser ça et se mettre dans une ambiance blanc froid pour pouvoir travailler très tard, plutôt que de prendre des cafés. Parce que le gros avantage de la lumière bleue, c'est que 20 minutes après, quand vous avez coupé la lumière, que vous avez fini votre travail, 20 minutes après, vous repassez dans un cycle de sommeil et vous vous rendormissez. Alors qu'avec la caféine, ce n'est pas fini, quoi. Ça dure et on ne peut pas le contrôler. Pour conclure, oui, parce que sinon je pourrais durer 2 heures comme ça. Donc voilà, les usages des blancs chauds, des blancs froids. Et pour revenir à... C'était quoi, décembre 2015, je suis passé sur le 19-20, invité du 19-20 de France 3 et j'avais présenté un exemple pour revenir sur les lumières de la ville. Une des choses qui est possible avec la LED, mettons, bah moi j'avais pris l'exemple de la place du Capitole parce que c'est une place, il y a certainement les places équivalentes à Bordeaux où il y a à la fois des riverains et des cafés et puis une ambiance. Eh bien, l'avantage de la LED dans la ville, c'est qu'on va pouvoir avec la LED passer d'un blanc chaud très agréable, donc dîner en amoureux, très sympathique, voilà, avec une belle lumière, à vers 11h minuit, où il faut commencer à faire évacuer les personnes, passer à un blanc froid, où là, on n'a plus trop envie de rester, et on a plutôt tendance, ça va chasser de façon gentille donc, les personnes, en assurant en plus un aspect sécuritaire, puisque la lumière blanche, et ça réveille en même temps, et donc ça va inviter à quitter les lieux, pour ensuite la faire baisser, à 10% ou moins, pour évidemment rendre la place aux riverains. Donc ça, c'est un avantage de la LED, que l'on peut faire avec la LED, faire baisser, dimmer, changer de température de couleur, que l'on ne peut pas atteindre avec d'autres types d'éclairage.
Merci. Petite précision pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de la lumière, quand on parle de lumière chaude et de lumière froide, blanc chaud, blanc froid, c'est des lumières plutôt bleutées pour les blancs froids et des lumières plutôt jaunes.
Voilà. Vous avez des exemples. Un blanc froid, c'est le tube néon, et les blancs chauds, c'est les spots qui nous éclairent. Voilà. Et la définition, le blanc chaud, blanc froid, elle est paradoxale, parce que si vous prenez un bout de métal noir comme ça et un chalumeau, que vous le chauffez, vous allez avoir des températures basses, 2600 Kelvin, vous allez commencer à avoir du rouge, ça va commencer à rougir. Vous continuez à chauffer, vous allez passer vers l'orange, vous continuez à chauffer, et donc la température monte, et vous allez passer au blanc de plus en plus clair. Et vous continuez à chauffer, vous allez passer au bleu, s'il n'a pas fondu. Et le bleu, c'est la couleur de la flamme. Donc plus on monte en température de couleur, plus on va des blancs chauds, qui sont des températures basses, vers les blancs froids. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le feu rappelle plutôt les blancs chauds, et la glace, les blancs froids. Voilà, c'est dans les bleus. Donc ça, c'est le paradoxe et en même temps l'explication.
Merci. Bien, mais écoutez, je crois qu'on arrive à la fin. Donc je vais redonner la parole à chacun des intervenants pour qu'ils donnent en une minute une petite conclusion.
Alors, la conclusion. Je vais faire une toute petite parenthèse en 30 secondes quand même pour par rapport à la notion de nuisance lumineuse, de pollution lumineuse dont on a parlé tout à l'heure. 30 secondes, tout simplement pour dire que oui, on trouve des flux lumineux dans l'atmosphère. Ces flux lumineux sont de moins en moins, ou étaient, le fruit de luminaires qui, de par leur conception, laissaient fuir du flux lumineux vers le ciel. Mais ça, aujourd'hui, c'est banni. On n'en fabrique plus. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain, pour se déplacer, il a besoin de voir la surface sur laquelle il se déplace. Le seul moyen qu'il a de la voir, cette surface, c'est qu'elle soit éclairée, que les rayons lumineux arrivent sur la surface et reviennent jusqu'à son œil. Donc ça veut dire quoi ? C'est que la lumière, elle rebondit, elle vient à notre œil, mais elle ne s'arrête pas à notre œil. Elle continue, elle finit dans le ciel. Et dans le ciel, effectivement, elle accroche les particules en suspension, qui, soit dit en passant, sont souvent de la pollution. Mais il y a aussi des gouttelettes d'eau. Voilà, donc ça c'était juste une petite parenthèse pédagogique pour bien comprendre que, sauf à éteindre totalement l'éclairage, il y aura toujours un halo lumineux au-dessus des espaces urbains. Et du coup, je me suis oublié ce que je voulais dire pour conclure. C'est pas très grave, je vais lui passer le micro aussi. Je voulais dire que l'éclairage, c'est peut-être ce que tu voulais dire, l'éclairage, vous avez compris, c'est une matière et c'est un domaine complexe. Et la complexité, Ça veut dire qu'il va falloir, pour bien appréhender, faire des études, et des études assez poussées, assez précises, sur toutes les situations que nous avons à traiter, que ce soit l'espace urbain ou l'espace intérieur. Et que ces études, ce n'est pas tout le monde qui s'improvise, c'est un métier à part entière. Et il faut savoir se rapprocher des professionnels de la conception lumière, des bureaux d'études, d'éclairage, etc., dès que l'on doit manier la lumière. Sans quoi on fait très facilement des bêtises. Et une des plus désagréables aujourd'hui, et que l'on voit beaucoup, c'est la notion d'éblouissement. Comme on utilise des sources assez ponctuelles et donc intensives, on se retrouve en situation d'inconfort dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'installations. Donc je vous invite à vous rapprocher des gens qui savent faire, comme la petite dame à côté de moi.
Et la petite dame, elle va vous conseiller la lecture d'un livre qui vient tout juste de sortir aux éditions du Moniteur. C'est un ouvrage collectif sur la conception lumière. Donc si vous voulez tout savoir sur l'histoire de la lumière dans la ville, les impacts sur la santé, comment on construit un projet, quelles sont les réglementations, d'avoir des exemples, qu'est-ce que c'est un éclairage muséographique, l'utilisation, les usages de la lumière festive dans la ville. Ça fait 400 pages. Ça a été écrit par plus de 50 personnes qui se sont remontées les manches pour écrire cet ouvrage. Donc ça vient de paraître en juillet. La conception lumière aux éditions du Moniteur, bien connu des architectes.
Bien. Eh bien écoutez, en conclusion sur la partie produit, luminaire, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à présent, les luminaires, qu'ils soient raccordés EDF ou solaires, avaient pour objectif de vous éclairer aussi bien qu'en journée. Maintenant, la tendance a vraiment basculé vers un lampadaire beaucoup plus adapté à vos usages et à un confort d'éclairage adapté aux nouveaux usages. Donc voilà, on n'éclaire plus forcément très très fort comme en plein jour, mais de manière plus adaptée. Et puis pour rejoindre rapidement la notion de Smart City qui a été évoquée, le lampadaire qu'on est en train de développer également chez Suna, ça fonctionne maintenant sur table et sur notre parking, donc prêt à déployer sur le terrain, c'est un lampadaire qui va être capable d'être doté de capteurs pour justement être renifler l'environnement qui l'entoure et être capable de remonter des données sur les serveurs de la métropole et des collectivités pour justement améliorer les usages sur le terrain.
Voilà. Merci. Bien, écoutez, je vous remercie également d'avoir participé. Est-ce qu'il y a encore des petites questions? Non? Ah, si. On n'a pas abordé le LIFI.
Alors, désolé. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le LIFI? Non? Donc le LIFI, c'est la même chose que le Wi-Fi. Vous connaissez tous le Wi-Fi, je suppose. En tout cas, vous savez que quand vous raccordez, ça fonctionne. Ou pas. L'histoire, c'est quoi? Ce sont des ondes qui envoient des 0 et des 1 et qui permettent à vos récepteurs, donc par exemple vos ordinateurs ou smartphones, de prendre de l'information numérique et de vous la retraduire en image, en texte ou en musique. Le LIFI, c'est exactement le même principe, mais sauf que au lieu d'utiliser des ondes avec des longueurs d'onde invisibles, on va utiliser des ondes du spectre du visible, donc la lumière, projetée par des systèmes d'éclairage artificiel. Pour pouvoir faire ça, il faut avoir une source à LED. C'est la seule source qui permet de le faire. Et le principe, c'est quoi? C'est qu'on va moduler très rapidement ces sources-là, plusieurs centaines de milliers de fois par seconde, et on envoie des 0 et des 1. Quand c'est allumé, c'est un 1. Quand c'est éteint, c'est un 0. Et donc, dès qu'on a un récepteur qui est en liaison directe avec le rayon lumineux, mon téléphone, par exemple, dès lors qu'il est doté d'un capteur qui permet de recevoir ces informations, alors il va pouvoir transiter un signal numérique. Donc ça veut dire qu'il faut que le luminaire en question soit équipé, qu'il soit en liaison Wi-Fi, en quelque part avec ou filaire, avec toute la sphère numérique. Et c'est juste le dernier tronçon de communication entre le luminaire et votre récepteur qui est assuré par cette modulation de lumière. Alors, c'est intéressant pour un certain nombre d'applications, notamment en muséographie, puisqu'on va pouvoir aller se promener devant un tableau et avoir une visite augmentée avec des commentaires qui vont apparaître sur une tablette ou un téléphone. Vous pouvez rencontrer ça aussi dans les galeries marchandes où on va vous donner de l'information sur la super promo qu'il y a deux magasins plus loin, etc. etc. Sur l'espace public, c'est un petit peu plus compliqué d'en trouver des applications, ou tout au moins si on a des applications proches de celles que je viens de citer, parce que les deux cas existent. Hein, on fait aussi de la visite patrimoniale dans l'espace public. On a aussi des magasins ouverts dans l'espace public, mais en définitive, de nuit, il n'y en a pas tant que ça. Donc, au final, on serait obligé d'équiper tous nos luminaires de l'espace public d'une technologie complémentaire pour un usage extrêmement limité. Ce qui va certainement freiner beaucoup le développement de Wi-Fi sur l'espace extérieur. Par contre, c'est une technologie qui est en train de se développer assez massivement dans l'intérieur. Et les grands fabricants de smartphones ont fait savoir qu'ils intégreront d'usine le récepteur LiFi dans leur caméra. Alors, ça ne marche que quand, non pas que la nuit, quand on a une source de lumière artificielle à LED active. Donc ici, là, il ne fait pas nuit dehors, mais si on avait des LED ici convenablement équipés, je pourrais recevoir mes informations sur mon téléphone au même titre qu'avec du Wi-Fi. Voilà. Donc c'est une technologie alternative. Elle est intéressante pour un certain nombre d'applications, notamment pour la sécurité aussi, parce que ce que j'émets de mon téléphone, la liaison elle est juste ici, je ne diffuse pas des ondes partout autour de moi, et quelqu'un pourrait capter mon information à 30 mètres d'ici avec du Wi-Fi. Avec le LiFi, il faudrait qu'il soit sur cette trajectoire-là. Donc voilà, c'est un autre axe de développement. Ça limite pas véritablement le problème.
Il n'y a pas d'onde électromagnétique.
On est dans de l'éclairage. Alors,
la lumière est une onde électromagnétique.
La lumière artificielle est une onde.
Mais on n'est plus dans les mêmes longueurs d'onde. Voilà. Oui, mais la radio, c'est aussi des ondes électromagnétiques classiques. Hein, voilà. Est-ce que la radio, Europe 1, France Inter, on la capte partout? Les personnes qui disent sensibles, c'est plus de un aspect, disons, psychologique. Parce que les longueurs d'onde Europe 1, on la capte partout dans le monde, enfin en Europe. Il y a des ondes électromagnétiques qui se propagent partout. Simplement, le soleil, boum, il y a des décharges électromagnétiques. La Terre entière est un champ magnétique. Donc, il y a du champ magnétique partout, tout le temps, autour de nous. Si nos yeux pouvaient permettre de voir les ondes électromagnétiques, on serait aveuglé, on serait dans le blanc permanent. Parce qu'il y a toutes sortes d'ondes électromagnétiques qui passent, des naturelles, des ondes artificielles avec la radio, la télévision, le Wi-Fi, le GSM, rien qu'un téléphone, il y a du Bluetooth, du Wi-Fi, du GSM, il y a deux bandes de GSM, enfin bon, c'est effroyable, il y en a dans tous les sens et de partout. Donc on ne peut pas, à moins peut-être de vivre tout nu, et encore, il y a le champ magnétique de la Terre, hein, au milieu de l'Alaska, sans allumer quoi que ce soit, sans qu'il y ait rien d'électrique. Parce qu'à partir du moment où il y a un courant électrique, il y a un rayonnement électromagnétique autour. Ça, c'est une loi, c'est une loi de Maxwell, les lois de Maxwell, tout simplement, qui dit ça. C'est une loi de nature. Donc, à partir du moment où il y a un courant électrique, il y a un champ électromagnétique. Donc, on ne peut pas y échapper. Pour revenir au LiFi, une des applications, donc tout ce qu'a dit Ghislain est complètement juste et vrai, mais je vais juste donner un exemple complémentaire qui serait peut-être l'application la plus probable. Mettons, vous êtes dans un supermarché. Je reprends c'est l'exemple qu'il a donné aussi, mais je complète. Simplement, vous allez être tracé. Voilà, vous avez votre smartphone, la personne, il va y avoir des études statistiques. Qu'est-ce qu'on a vendu le plus? Cette personne-là est intéressée par quoi? Eh bien, pour lui, spécialement pour lui, on va faire 30% sur un produit qu'il n'a pas essayé, parce qu'il essaye d'habitude celui-là. Eh bien, on va lui faire. Et puis, au moment où il va se trouver sous ce flux de lumière-là, pam, on va lui dire, regardez, il y a ça qui est intéressant pour vous, testez ce produit-là. Donc, on va le suivre dans le magasin. Et là, il y a de la lumière partout, parce qu'on est dans l'obscurité totale. Et effectivement, puisqu'on est éclairé, on va le suivre à la trace. On va savoir où est-ce qu'il s'est arrêté, combien de temps il s'est arrêté, ce qui l'intéresse, ce qu'il a acheté. Et voilà, on sait tout.
Est-ce un avenir souhaitable?
Et c'est peut-être pas un avenir souhaitable, mais pour les commerçants, oui. Et le LiFi, à partir du moment où il y a un intérêt économique...
C'est Philips a développé ça il y a un an et demi à Francfort. On était dans un magasin et ils nous vantaient les bienfaits de la LiFi.
C'est
la première application réelle de la LiFi.
Voilà, tout à fait. Ça existe. Mais ça sera beaucoup plus démocratisé après, mais ça existe. Et effectivement, on est tracé, on l'est déjà tracé. Il ne faut pas être naïf. Mais là,
c'est pour ça que je n'ai pas de smartphone. Voilà. Bien, mais écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je remercie les participants à cette table ronde et puis CapScience de l'avoir organisé dans le cadre de Luminopolis. Merci
voilà,
beaucoup.
Je vous invite à aller voir le site de l'AFE, l'Association française de l'éclairage, qui propose des fiches techniques sur l'éclairage urbain, sur l'éclairage domestique, sur toutes les sources, les nouvelles sources d'éclairage. Il y a énormément d'informations et de fiches techniques à explorer sur ce site.
Ah oui, un tout petit point. L'AFE prône l'utilisation du terme nuisance lumineuse, comme on parle de nuisance de bruit, parce que dès qu'on arrête la lumière, eh bien, la nuisance s'arrête. Et de garder pollution plutôt pour les cas comme la qualité de l'air ou la qualité de l'eau, ou quand on arrête la source de pollution, eh bien, malheureusement, la qualité de l'air ne change pas immédiatement et la qualité de l'eau ne change pas non plus immédiatement. Ça permet comme ça d'avoir une petite nuance au niveau des gènes et des problèmes que ça peut poser au niveau environnemental. Voilà, merci beaucoup. Merci.